Donc, je vais lire un passage dans Marc 9 et après je vais prier. Donc c'est au verset 38 jusqu'au verset 41. Non, pardon, excusez-moi. Non, verset 33 jusqu'au verset 37. Je lis dans la version Tob, alors vous n'êtes pas obligé de suivre. Mais... Ils allèrent à Capernaum. Une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'assit et appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et après l'avoir embrassé, il leur dit « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, on est bien petit quand on entend ce témoignage de cette dame que je ne connais pas, mais dont je vois les épreuves vives et fortes. J'ai une amie aussi qui vit un problème pas similaire, mais ses enfants sont aussi malades et c'est très difficile pour elle aussi. Et ça me fait souvenir, Seigneur, de cette situation et Seigneur, je veux te les confier, je veux te confier cette dame, Céline, et ses enfants, et Stéphanie aussi, avec ses enfants qui souffrent aussi. Et Seigneur, je veux te prier de comme tu fais avec Céline, que tu puisses la consoler, la fortifier dans sa foi pour affronter, Seigneur, ce qu'il y a à affronter. Oui, Seigneur, souvent, on a besoin que tu rehausses notre foi. Parce qu'on veut croire, mais c'est difficile. D'autant quand toutes les évidences sont contre nous, ou en tout cas, on a l'impression qu'elles sont contre nous. Alors, je te prie, Seigneur, que tu puisses rehausser la foi de Céline, de revivifier ses forces, Seigneur, dans son corps. Si elle a un bon moral, Seigneur, son corps aussi montre des signes de faiblesse et c'est aussi pareil pour Stéphanie. Et je te prie, Seigneur, que tu les revivifies, que tu redonnes, Seigneur, de la vigueur à leur corps. Car toi, tu peux le faire, Seigneur, on le sait. Tout est possible pour toi. Et je sais que autant Céline que Stéphanie demeurent en toi, que tes paroles demeurent en elles. Et elle s'accroche à toi, Seigneur. Alors, s'il te plaît, Seigneur, vivifie-les. En ton nom, Jésus. Amen. Qui est le plus grand ? Voilà la question qui agita les disciples lorsque Jésus leur annonça le sort qui lui réservait à Jérusalem. Qui est le plus grand ? Luc choisit une autre conjugaison pour expliquer ce débat qu'il y a eu entre eux. Il dit, sensiblement, en grec qu'on voit ça, qui pourrait être le plus grand ? Au lieu de dire qui est le plus grand, c'est qui pourrait être le plus grand, de telle sorte qu'on voit que dans cette conversation, en fait, il y avait un débat. On ne sait pas trop quels en étaient les tenants et les aboutissants, mais néanmoins, voilà, il y avait cela. Qui peut être le plus grand ? Jésus leur parle de quelque chose de sérieux, il leur annonce sa mort et sa résurrection, et eux, sur le chemin, ils s'entretiennent de cela. Donc même si Luc change un peu la grammaire, au fond, l'affaire reste la même. Qui pourrait être choisi pour prendre la tête du mouvement initié par Jésus? Et pour quelle raison? Ça serait un tel et pas un tel. Voilà, grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on peut imaginer qu'il y avait au fond dans ce débat. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de Jésus. Loin de leur reprocher cet enthousiasme de prendre la place tant convoitée, Jésus ne les condamne pas pour cela. Mais il profite de ce débat pour annoncer la première vertu que devrait avoir ce leader, à l'humilité. Voilà. Puisqu'il dit, si quelqu'un veut être le premier, on pourrait rajouter le premier de cordée, hein, il sera, alors parce que là, le texte aussi, là, dans ce que je vous ai lu, c'était une forme de subjonctif, mais en fait, c'est un futur qui est proposé. Donc, si quelqu'un veut être le premier de cordée, il sera parmi eux le dernier. De fait, celui qui a cette prétention, voilà, finalement, d'être le premier, il sera le dernier, le serviteur de tous. C'est un petit peu une annonce, un peu prophétique pour ceux qui auraient des prétentions. Si tu veux être le premier, tu seras le dernier. Mais ce qui m'intéresse là ici, c'est ce qu'il ajoute à cette parole. Il ajoute à cette parole un geste. Il prend un enfant, il prend dans ses bras, il l'embrasse, puis il dit « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Alors, pourquoi fait-il cela? Pourquoi il vient et il prend un enfant? On peut imaginer que c'est pour appuyer son propos auparavant. Si quelqu'un veut être le premier de cordée, il sera le serviteur de tous. Donc, on peut imaginer que c'est l'humilité qu'il veut mettre en avant, et donc, du coup, il prend un enfant qui pourrait, en tout cas dans la tête des personnes, représenter l'humilité, la faiblesse, l'innocence et toutes ces choses. Donc, il prend, il montre pour enfoncer le clou. Et je crois bien, effectivement, qu'il y a de ça. Mais ça, c'était un premier niveau de lecture. Je pense qu'il y a un autre niveau de lecture à réfléchir, et c'est ce que je vous propose ce matin, qu'on explore ce deuxième niveau de lecture. Puisque celui-ci, on le connaît, et au fond, on connaît ses valeurs de l'humilité, dans le service, etc. Mais peut-être que le deuxième niveau de lecture va nous intéresser. Voilà. Mais tout d'abord, on va poser un petit peu le contexte pour justement voir un petit peu ce qu'il y a autour. Donc on sait, en fait, à l'époque où il dit ça, Jésus est en Galilée. Il est, finalement, c'est encore le début de son ministère, en ce sens qu'il y a vraiment deux, même si c'est compliqué quand on lit les évangiles de voir tout ça, mais en fait, il y a vraiment un moment où il est en Galilée, il exerce son ministère, et après, il y a vraiment le moment où il est en Judée, où son ministère va prendre une ampleur nationale, on pourrait dire, et va être confronté au pouvoir politique et religieux de son époque. Mais là, il est en Galilée, donc il est loin du pouvoir, loin, c'est pas si loin que ça, ça fait l'équivalent d'un département, mais c'est quand même loin du pouvoir, en tout cas pour l'époque. Et il est dans ses bourgades autour de Capharnaüm. Et là, on voit aussi, donc un peu auparavant dans ce texte, qu'il est sur le mont Tabor, il est transfiguré, et c'est à cette occasion, en fait, qu'il va ensuite prendre le chemin pour aller en Judée. Donc on est juste un peu avant où il va prendre le chemin pour aller en Judée, et finalement rentrer dans un ministère beaucoup plus large que celui qui était à l'époque, au moment en fait qu'il dit cette parole. Et ce qu'il dit, c'est qu'en arrivant en Judée, et il l'annonce très clairement dans le passage auparavant, et c'est ce qui va ce que j'ai dit tout à l'heure, qui va souffrir de la part des dirigeants, et ils vont le tuer, mais il ressuscitera. Et là, au fond, cette conversation de qui est le plus grand, moi j'aimerais juste qu'on le voit que si l'auteur a choisi de le placer à cet endroit-là, cette question, puisque c'est quelque chose qui a agité sans doute les disciples à plusieurs reprises, puisqu'on le voit même au moment de la scène, la question fatale, qui est le plus grand qui est encore là, donc c'est quelque chose qui a agité en permanence les disciples. Donc bon, c'est là, et là l'auteur, ben, Marc, choisit de le mettre là, et je pense que c'est aussi en réponse à quelque chose que Jésus a sans doute enseigné pendant avec ses disciples, pendant le temps qu'ils étaient avec lui, c'est que, en fait, ceux qui veulent être chef ou responsable ou leader dans le royaume de Dieu, il ne faut pas qu'ils prennent exemple sur les dirigeants de ce monde, les tyrans, etc., qui imposent leur volonté, dominent les peuples et qui se font en plus passer pour des bienfaiteurs. Comme ça, c'est pas mal d'avoir la gloire en plus. Et pour le coup, Jésus condamne ça. Et en fait, quand il leur dit ces paroles-là, que j'ai dit, si quelqu'un veut être le premier de cordée, il sera parmi vous le dernier, il est en train de dire, mais si vous êtes agité par ces mêmes sentiments, par ces sentiments, vous êtes finalement comme ces tyrans. Vous êtes agité par les mêmes passions. Et c'est ces mêmes passions qui vont me porter jusqu'à la croix. C'est ces passions-là, précisément, qui vont me tuer. Au fond, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que les disciples, dans leur façon, dans des choses voilà, qui sont au fond d'eux et qui les agitent, eh bien, il y a le même ferment qui sera ensuite à l'origine du meurtre, pas appeler ça, mais d'un procès faussé qui va conduire Jésus à mourir sur la croix. Donc, voilà, on peut poser le contexte comme ça. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième parole pour comprendre un petit peu le niveau dont je vous ai dit que j'aimerais qu'on puisse, ce deuxième niveau de lecture que j'aimerais qu'on puisse donner, parce que Jésus, finalement, il nous le propose. Quand il dit « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci-là » comme celui-là, pardon, « m'accueille moi-même, et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Là, en fait, bien sûr, il y a cette histoire d'orgueil, hein, que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que ce n'est pas tant pour expliquer ce problème-là qu'il pose ce geste, ou les ambitions, ou le fait que nous soyons dans une mauvaise démarche quand nous avons cette ambition, mais plutôt pour présenter Dieu comme un enfant. Eh oui. Ici, dans ce verset, Dieu est présenté comme un enfant. Un enfant, voilà, je ne sais pas trop quel âge il avait, mais dans le texte, c'est Païdion, donc je pense qu'il devait avoir 5, 6 ans, 7 ans, peut-être 8, voilà, un enfant. Pas un adolescent, un enfant. Et donc, si on voit les choses comme ça, si Dieu est présenté comme un enfant, ça m'interroge, ça devrait nous interroger. Et du coup, j'ai interrogé cela. Parce qu'il nous présente comme un enfant et il nous dit de l'accueillir. Un enfant qu'il faut accueillir. Alors, je vous propose de l'interroger de cette manière, d'une part, et après d'une autre manière qu'on viendra après. La première façon qu'on va l'interroger, si Dieu est comme un enfant, comment je le reçois ? Alors, je pense que vous avez tous fréquenté des enfants. moi aussi, moi, je m'occupe aussi d'un groupe de scouts, donc des louveteaux, des éclaireurs, etc. Donc je vois à peu près à quoi ça ressemble. Mais une chose qu'on voit chez les enfants, c'est que, une des premières choses, c'est que bon, ben, il est petit. Alors, mettez ça toujours en parallèle, Dieu comme un enfant. Donc, il est petit. L'enfant est petit. L'enfant est faible par rapport à un adulte. L'enfant manque d'expérience. L'enfant est fragile. L'enfant a besoin, il n'est pas autonome, il a besoin qu'on lui vienne en aide pour de nombreuses choses. Il nous sollicite. L'enfant, voilà, il fait des bêtises. Dieu nous est présenté comme un enfant. Et il nous dit, recevez-le comme un enfant. Et il y a quelque chose aussi de particulier dans notre rapport à l'enfant. Parce qu'il est faible, parce qu'il est petit, et parce que je suis fort, je peux lui imposer ma volonté. C'est ça aussi la particularité de l'enfant. C'est contrairement à un homme où je pourrais parler d'égal à égal, un enfant, je suis supérieur, entre guillemets, et je peux lui imposer ma volonté par la force. Dieu, comme un enfant, pourrais-je lui imposer ma volonté par la force ? Eh oui, je peux lui imposer ma volonté par la force. C'est bizarre. Mais oui, on peut le faire. Mais de quel Dieu on parle ? Parce que, au même titre que quand j'impose ma volonté à l'enfant, je le forme à mon image, puisque c'est ma volonté, donc je le dresse, ou en tout cas je le mets, ou j'essaye de le mettre à ma main, entre guillemets, si je le force, hein, et en vue de ce que je projette pour lui, donc à mon image, je fais exactement la même chose avec Dieu à ce moment-là, et en fait, ce n'est plus Dieu que je mets à mon image. C'est une représentation de Dieu. Mais Dieu n'est plus là. Donc dès que je le force, il disparaît. Plus de Dieu. Ou alors une idole. Et je peux le faire à n'importe quel moment. Parce que ma volonté est souveraine, en tout cas j'ai l'impression. Et à tout moment, parce que Dieu, parce que Jésus le dit et nous présente Dieu comme un enfant, eh bien d'une certaine manière, à tout moment, je peux lui imposer ma volonté. Mais qu'est-ce qui se passe parallèlement, en même temps, au moment où je lui impose ma volonté, en fait, je le transforme en idole. Et il n'est plus Dieu, il est l'idole que je m'en fais. Il est l'image que je m'en fais. Ah, là, j'ai de la prise sur lui. Il doit réagir comme ci, comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Mais ce n'est pas Dieu. C'est une idole. C'est une image que je me suis taillée. Ça, c'est la première chose que peut nous enseigner cette référence quand Jésus dit « Dieu est comme un enfant », c'est-à-dire qu'au fond, il se présente à nous, faible, et je pourrais, d'une certaine manière, en prendre possession. Mais si je le fais, ben c'est comme cet enfant, si j'en prends possession, ben il ne sera plus jamais lui-même, il sera comme moi. Voilà. C'est un choix. Mais en tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu pour que nous fassions cela. Deuxième chose, comment on pourrait interroger cela ? Si Dieu est comme un enfant, puis-je lui faire confiance ? Est-ce que je peux faire confiance à un enfant ? Vous savez, quand je suis dans l'épreuve ou quand ou quand j'ai besoin d'être fortifié, ou j'ai besoin d'être encouragé, je prends les psaumes, je les lis, je regarde la nature, la gloire de Dieu, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, les souvenirs où il m'a délivré de mes ennemis, voilà, toutes des choses qui sont susceptibles de rehausser ma foi, de me fortifier et de me dire, ben voilà, je vais entrer, ça va me permettre en fait de me galvaniser et d'avoir confiance. Je vais aussi me rappeler que je suis un enfant de Dieu, que je lui appartiens, que je suis élu, et qu'il est tout puissant, et que s'il est avec moi, qui sera contre moi, etc. Et toutes ces choses-là vont nous galvaniser, ça va rehausser notre foi, et on va traverser l'épreuve, etc. En revanche, bon, ça j'ai souvent entendu ce genre de discours, même dans nos prières, etc., même les miennes, hein, mais j'ai rarement vu quelqu'un prier... le petit haut là qui fait que des bêtises, je vais me confier en un Dieu qui fait que des bêtises et qui ferait n'importe quoi, ou en tout cas qui, à mes yeux, ne serait pas à la hauteur de l'enjeu. J'ai peu vu ce genre de choses. Et l'enfant qui fait des bêtises, qui est faible, quand je parle de bêtises, c'est tout, pas forcément par désobéissance, mais juste parce que il expérimente la vie et donc pour le coup, il a besoin d'apprendre de ses erreurs. Donc je parle plutôt de ça. Mais comment je pourrais me confier dans quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui me paraît inapte à la tâche? C'est difficile. Et prier quelqu'un qui serait inapte à la tâche, j'imagine, je prie un Dieu incapable de faire quelque chose pour moi, ou du moins j'ai l'impression. C'est incohérent, c'est bizarre. Et pourtant, comment puis-je lui faire confiance? Ça se résume en un seul mot. Puisque là, Dieu est comparé à un enfant, on reste toujours dans cette image. Eh bien, la grâce. Voilà. Le mot grâce. Le mot grâce est profond et on n'en aura jamais sondé toute la profondeur, je crois. Le mot grâce. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas confiance à Dieu dans sa faiblesse, alors qu'il est dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes, alors comment lui confierai-je ma vie quand les circonstances me conduiront au lieu où je n'ai pas envie d'aller? Parce que ça viendra. Hélas, c'est comme ça. Comment lui faire confiance si je n'abandonne pas, ce que je sais de lui pour qu'il advienne ce que je ne sais pas encore de lui? De quoi je parle? Je reviens à notre texte. Je parle de la croix. C'est précisément l'idée qu'il y a derrière cet accueil auquel fait référence Jésus. À aucun moment les disciples pensaient que c'est pendu sur une croix que leur maître finirait. Et tout ce qu'il a fait sur le plan de l'expérience des hommes, s'introduire par exemple dans le temple et chasser les personnes qui y étaient, tout ce qu'il a fait en miracle, etc., était de nature à provoquer l'ire des politiciens, du pouvoir religieux et politique qui allait le condamner. Si on voulait se faire tuer, il ne fallait pas faire mieux. Et ça, on pourrait dire, c'est l'œuvre d'un enfant. Parce que quelqu'un de mature, quelqu'un d'un homme qui a compris, un homme fort, il ne fait pas comme ça. Si vous avez affaire à un homme comme Mitterrand ou comme Jacques Chirac, qui ont gravi tous les stades de la politique et qui sont des fins politiciens, ils ne font pas comme ça. Certainement pas. pour bien sûr instiguer leurs mouvements politiques ou leurs idées, quoi, hein, c'est ça que je veux dire. Ils ne font pas comme ça. Jésus, lui, il a fait comme ça. Comme un enfant. Comme un enfant. Et pour le coup, quand je parle de grâce, c'est qu'effectivement, il a été sur la croix, il a été pendu sur la croix, il est mort, mais Dieu l'a relevé. Et ce qui est intéressant chez l'enfant, bon, il y a une petite mouche qui m'embête, ce qui est intéressant chez l'enfant, c'est que quand il tombe, il se relève toujours. Il n'est pas abattu, il se relève. À ces âges-là, je parle. Après, quand on est un peu plus grand, les ados, c'est un peu différent, mais quand ils ont 7, 8 ans ou 9 ans, là, moi je les vois, dans les activités de scout, ben, ils échouent souvent, ils tombent, ils se font mal, ils n'y arrivent pas, machin. Mais ils persévèrent, et ils se relèvent. Et même s'ils ne persévèrent pas parce qu'ils n'y arrivent pas, si vous êtes à côté, ils se relèvent, et ils se relèvent, et ils se relèvent, et ils se relèvent. Car le juste se relève toujours. Et Jésus, le juste, se relève toujours. Et de cette histoire, il a pu, de la croix, il a été relevé. Tous ont sombré, mais Jésus est vivant. Et c'est cela qui m'intéresse. Pourquoi on peut faire confiance à Jésus ? Pourquoi on peut faire confiance à ce que derrière la croix, il y a notre relèvement, derrière l'inexpérience apparente, il y a notre relèvement, c'est-à-dire dans les directions en fait, que le Seigneur nous conduit, hein, c'est ça, hein, qui sont parfois étonnantes, qui parfois nous font peur, et du coup on revient sur notre expérience, on dit on ne va pas aller dans ce chemin-là, on ne va pas écouter finalement Dieu là où il nous emmène, pour revenir sur des choses bien établies, sur une sagesse bien forte, bien éprouvée, parce que je ne veux pas aller dans les chemins que le Seigneur me propose, parce que les chemins là où il me propose, elles m'amènent à la croix, ils ne m'amènent pas ailleurs, pour que la vie de résurrection puisse m'animer, et que je ne sois pas un homme qui compte sur ses propres forces, qui compte sur sa propre sagesse, mais qui compte sur la vie de Dieu. Et quand je tombe, je me relève. Et c'est dans ce relèvement que la gloire de Dieu est manifestée. Parce que ce n'est pas moi qui me relève, en réalité. C'est la vie de Dieu qui me relève. Et en cela, on peut dire, le juste se relève toujours. Quand je suis dans le péché, où je suis livré à moi-même et que je fais n'importe quoi, si je suis juste, et je le crois, en tout cas pour moi, et je sais que je suis dans une assemblée de justes, je me relève. Je me relève. Quand j'ai des ennemis ou des calomnies sur moi, ou quand il y a eu des malentendus à mon travail et que j'en suis la victime, ou quand il y a des personnes qui cherchent à me nuire, oui, je peux me battre et me débattre, etc. Mais si je fais confiance à Dieu dans les chemins qu'il me propose, et qui seront sans doute pas ceux de la sagesse, qui seront différents, et que j'aurai l'impression que tous m'atteignent, que tous me font descendre dans la fosse, Dieu sera ma justice, Dieu me le relèvera, et quand il me relèvera, la justice de Dieu va inonder le microcosme dans lequel je me trouve. Et les gens verront, cet homme-là, c'est injuste. Cet homme-là, il y a quelqu'un dans sa vie d'au-dessus. Voilà. La gloire de Dieu se manifestera à cet endroit-là précisément. Parce que, au fond, Dieu nous attire dans des chemins qu'il a préparés d'avance. Et ces chemins, ce sont des chemins de grâce. Et bien sûr qu'il y a des moments complexes, il y a des moments, des épreuves, mais ces épreuves-là, elles sont uniquement dans le but de glorifier le Seigneur. Et c'est difficile, en fait, à entendre, hein. J'entends, parce que moi aussi, j'ai des problèmes, et c'est sûr que quand on est face à nos problèmes, c'est difficile d'entendre ça. Quand on est plus ou moins bien et que ça se passe bien, ça va. Mais quand on se dit, bon, on verra quand ça arrivera. Mais quand on est dans le creux de la vague, on n'est pas bien, quoi. Et ben, quand on entend ces choses-là, ben, c'est difficile. Et on a besoin peut-être de choses qui sont plus rassurantes. La sagesse, du coup, on va prendre la parole, on va regarder, on va prendre les amis aussi. Tout ce qui peut nous fortifier, en fait. Tout ce qui peut nous rendre forts. Or, c'est le contraire. Il faudrait choisir ce qui nous rend faible, ce qui est la possibilité de nous désavouer nous-mêmes pour laisser Dieu se glorifier. Et il le fera. Et il le fera à cet endroit précis. Pour conclure, il y a une exhortation, effectivement, dans ce texte, à l'humilité. Mais il y a plus que cela. Il y a aussi le comment le Seigneur souhaite que nous soyons humbles. Et pour le coup, il nous montre un enfant. Et dans cet enfant, c'est pas tant l'enfant lui-même qui représente l'humilité, mais c'est plutôt que Dieu est comme cet enfant et que moi je dois l'accepter, je dois l'accueillir. Si je dois accueillir cet enfant qui est Dieu et je dois d'une part ne pas essayer de le forcer dans mes voies, dans mes représentations, dans les images que je m'en fais, mais je dois le laisser être ce qu'il est. Ça, c'est la première chose, et ça, c'est difficile. Ça demande de l'humilité. Ça demande de se désavouer, de se dire « j'ai pas compris tout ». Comme dirait Job à la fin de son épreuve, « Seigneur, avant je connaissais, et aujourd'hui mon œil t'a vu, avant je savais et je disais aux autres la sagesse et j'enseignais la sagesse, mais en fait je ne connaissais rien parce que je t'avais pas vu. » Donc ça demande déjà de l'humilité. Et la deuxième chose, non seulement il faut arrêter, entre guillemets, de faire Dieu à notre image, mais aussi il faut faire confiance à ce Dieu petit, ce Dieu faible, ce Dieu qui est sur une croix, en tout cas qui est présenté sur une croix, qui en fait cache, qui fracasse toutes les images qu'on se fait d'un Dieu fort. Voilà. Ça fracasse tout, parce que là nous on voit croix machin, donc il y a une imagerie religieuse derrière, mais on pourrait associer chaise électrique. Ça correspondra à peu près à ce que l'horreur que ça peut représenter en fait la chose. La chose c'est horrible, c'est une chaise électrique. Voilà. C'est un lieu de mort. C'est un lieu de condamnation, c'est un lieu où on met les coupables, c'est un lieu où on humilie les gens, où il y a tout le monde qui est là en disant « t'es un mauvais ». Et d'ailleurs, reprenons un peu cette image un petit peu de la croix, qu'est-ce qu'il y avait autour? Tous ces hommes forts, tous ces politiciens, bon, tous ces hommes qui avaient le pouvoir à l'époque religieux et politique, ils citent la fable d'Ésope. La fable d'Ésope, c'est « médecin, guéris-toi toi-même ». C'est quoi cette fable? C'est la fable de la grenouille et du renard. Le renard, il sait ce que c'est la politique, entre guillemets. Il sait comment... Il est rusé, voilà, c'est ça que je cherchais. Comment, il est rusé. Il sait que il faut un peu de ruse pour pouvoir s'imposer ou imposer ses idées. Et là, il voit une grenouille qui est sur sa mare, qui est sur un nénuphar, et qui chante et qui dit venez à moi tous, si vous êtes guéris, j'ai de quoi vous guérir, j'ai des remèdes, venez, venez, venez. Et là, ce renard se moque en disant ah, tu as des remèdes, toi, la grenouille, mais regarde-toi, tu boites, alors guéris-toi toi-même, et après tu pourras enseigner les autres. C'est de cette fable-là qu'on affuble Jésus pour lui dire quoi ? Lui dire que c'est un charlatan. C'est un charlatan. Voilà ce qu'on dit à Jésus, en fait, autour de la croix, tous ces hommes forts. Un charlatan parce qu'il est sur la croix. Et toutes ses prétendues idées, elles sont sur la croix. Alors si notre espérance, effectivement, est dans ce monde, eh bien oui, alors on va tous s'arrêter, on va tous dire ça à Jésus. Mais si notre espérance est derrière, si elle est grande, si on a vu, si on a touché, on a goûté la grâce de Dieu, alors on sait que derrière la croix, c'est là où est la vérité. Et pour le coup, on ne se met pas avec le rond, avec les moqueurs, on se met avec les justes et on adore le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait pour nous. Cette grâce immense. On lui doit tout. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous donnes sur qui tu es. Seigneur, tu ne nous dis pas ce qu'on doit faire. Tu nous révèles qui tu es. Tu ne nous dis pas, il est sage de faire ci ou faire ça. Tu nous dis, voilà comment moi je suis. Je suis comme un enfant. Et ça me réjouit parce qu'un enfant, c'est accessible. Seigneur, donne-moi d'accueillir l'œuvre que tu as pour moi. Et même si je ne la comprends pas, même si j'ai l'impression que c'est un choix qu'on donnerait aux enfants. Seigneur, quand je suis né, j'étais enfant, et quand je vais vieillir, quand je serai vieux, je serai encore un enfant, parce que je vais avoir besoin qu'on m'aide. Entre-temps, je suis fort, mais je me méprends sur moi-même, et je m'illusionne, Seigneur, sur moi-même. Et ça, c'est le péché aussi qui vit en moi, qui vit dans mes membres, qui me conduit, Seigneur, à cet orgueil, qui me conduit à me méprendre. Seigneur, que je puisse goûter à cette grâce qui m'enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à ces fausses passions, à renoncer à avoir le contrôle sur toi. Oui, que cette grâce puisse m'inspirer, me donner de la joie et de la paix, et surtout de la simplicité, Seigneur. Quant aux issues de la marche avec toi. Oui, c'est vrai que tu nous emmènes dans des chemins qui font peur parfois, on a l'impression qu'on passe dans des vallées très sombres, mais pourtant, Seigneur, tu nous invites à te faire confiance. Oui, j'aimerais passer plutôt dans des vallées où c'est plus clair. Mais Seigneur, tu nous invites à passer par ces vallées-là. Parce que tu te glorifies, Seigneur, dans ces vallées. Et là où il y a de la mort, tu amènes la vie. Et là où il y a de la tristesse, tu amènes de la joie. Et là où il y a de l'inquiétude, tu amènes de la paix. Et là, Seigneur, où il y a des choses, Seigneur, qui nous dépassent et qui nous effraient, qui nous terrifient, Seigneur, tu viens nous consoler, tu viens nous mettre la foi, tu viens ôter le doute, Seigneur, parce que tu es vivant. C'est toi qui nous relèves, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous tes frères, tu as fait de nous, Seigneur, les participants à ta gloire. Et je peux prêcher ça, Seigneur, parce que je l'ai connu, je l'ai goûté, et parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as fait cette grâce de le vivre. Donc, Seigneur, et pour chacun d'entre nous, c'est pareil, on a goûté chacun à notre niveau, ta grâce, Seigneur, et ta bonté. Et on peut vivre ces choses parce que, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Alors, Seigneur, je te prie pour nous ce matin, pour que on soit éclairé dans notre marche et qu'on accepte, Seigneur, de t'accueillir quand il le faut. Parce qu'on va apprendre à te connaître ainsi et pas à connaître une image qu'on s'est fait de toi. Et je veux, Seigneur, te louer pour cette Église parce que je sais que régulièrement elle est traversée par des épreuves et elle a une foi énorme, extraordinaire. On l'a encore vu ce matin avec ce témoignage et ce frère aussi qui a témoigné. Il y a une foi énorme, incroyable, et je te bénis pour cela. Que cette foi, Seigneur, puisse être contaminante et qu'elle puisse être rayonnée dans tout le village de Vauvert et aux alentours, au Kellar et à Galician et tout autour, Seigneur. Oui, bénis cette assemblée en ton nom. Amen.
Je vous invite à un temps d'intercession, à ce temps de fin de culte, où nous prions pour nos autorités, pour notre communauté, pour les gens de notre Église. Seigneur notre Dieu, merci de ce temps passé ensemble. Merci pour ces nouvelles de Céline aussi, Seigneur, et voilà, que tu permettes à Mathis de rentrer demain aussi, Seigneur, et voilà, que tu puisses mettre un élan dans les cœurs aussi de tous les bénévoles aussi pour pouvoir soutenir Céline durant cette semaine, Seigneur. Merci de continuer à garder nos personnes plus âgées, Seigneur, qui ne peuvent plus se retrouver avec nous le matin, Seigneur, le dimanche matin, que tu prennes soin d'elles. Seigneur, tu les connais toutes, Seigneur. On veut te remettre ces élections aussi qui ont lieu aujourd'hui et voilà, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu souverain. Nous voulons te remettre aussi à ce temps d'élection et ses résultats, Seigneur. Tout est entre tes mains. Nous voulons te remettre le maire de notre commune aussi, Seigneur, que tu continues de lui donner de la sagesse, du discernement, Seigneur, que tu permettes aussi à tous les maires des communes voisines aussi, Seigneur, de pouvoir avoir cette justice sociale, Seigneur, et cette vérité, cette sincérité, Seigneur. Merci de continuer à nous aider à prendre soin les uns des autres. Merci de nous laisser aussi renouveler par toi, Seigneur. Amen. Voilà, je vous invite à un dernier chant, et puis Grégory nous fera l'envoi et la bénédiction.